Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du carnet nomade. Colette Fellous à la réalisation, Vincent Deck. Aujourd'hui, je vous écris de Copenhague. Je vous écris de Copenhague, du café Europa. Europa 1989. Les yeux encore émerveillés de cet après-midi passé à Rungsteldum, dans la maison de Karen Blixen, avec comme merveilleuse guide pour nous conduire dans l'histoire et la vie de cet écrivain culte, Catherine Lefebvre, qui est franco-danoise et qui dirige aujourd'hui cette maison-musée. « Je suis bien là où je me dois d'être », disait-elle. Et en rencontrant l'Afrique le 14 janvier 1914, jour où elle posa le pied sur le quai de Mombasa, en Afrique orientale anglaise, elle s'est retrouvée presque face à face avec sa puissance créatrice et son art de transformer le réel en conte. Elle, Karen Blixen, cette Danoise de 28 ans qui était en quête d'elle-même et d'une position dans le monde, se verra offrir en quelques heures un rang et un royaume. Car en se mariant avec son fiancé suédois, Bror, elle deviendra aussitôt baronne von Blixen-Finneke et voyagera vers Lundkong à 2000 mètres d'altitude dans une plantation de caféiers. En quelques minutes, le roman de sa vie est né, là, en Afrique. Il deviendra le magnifique livre « La ferme africaine » qui est devenu aussi un classique de la littérature danoise. Son amour de l'Afrique est inscrit dans chacune de ses phrases. Elle ne fera plus qu'un avec l'air, avec les brins d'herbe, les oiseaux, les fleurs, les montagnes, les animaux et tous ces visages qu'elle rencontre. Elle nous les offrira en partage. Sa découverte deviendra aussitôt la nôtre. Mais ce matin, avant de prendre le train pour la maison de Karen Blixen, j'avais pris rendez-vous avec Stéphanie Surum, qui est elle aussi franco-danoise et qui m'a proposé de traverser la ville avec elle et de nous accompagner jusqu'à la gare. Et le vélo, j'ai demandé. Mais ce n'est rien, j'ai l'habitude, je le prendrai à la main. Il nous accompagnera. J'ai perdu le cadenas, mais depuis 3 jours, je le laisse partout sans cadenas et il est toujours là.
On va descendre dans la petite rue ici. Et puis, donc on va aller dans un des quartier plus ancien de Copenhague, donc le quartier latin, où il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, mais qui est transformé aussi en quartier gay, donc c'est très vivant. Il faut pas habiter si on supporte pas bien le bruit, parce que à partir de jeudi soir jusqu'à dimanche matin, c'est
la fête.
Ah oui, c'est la fête. Mais c'est très sympa comme quartier. Et puis il y a le grand quotidien Politiken qui est situé dans ce quartier aussi, plein
vous
de petits magasins.
Vous avez travaillé longtemps ?
Oui, depuis 10 ans, j'ai fait reportage international et culture. Donc nous, on va descendre ici, dans les petites rues.
Comment vous décririez-vous la ville pour quelqu'un qui ne la connaît pas ?
Copenhague. Ici, centre Copenhague, vous le voyez bien, bon, c'est dimanche, c'est très calme, mais je trouve que c'est toujours une ville très très calme. Comme vous voyez aujourd'hui, le dimanche ici, c'est vraiment... Oh, j'adore. J'adore me balader le dimanche parce qu'on a carrément toute cette histoire. Parce que c'est vraiment... Ce quartier ici date de, je crois, 14e siècle. Puis on a tous ces immeubles pour soi-même, on peut voir...
Toutes ces couleurs aussi, les façades colorées, voilà, vert, jaune, ocre, rouge.
J'aime beaucoup habiter au milieu de l'histoire de Copenhague. Oui, cet arbre.
Oui, au milieu de la place.
Oui. Plus que 400 ans quand même.
Ah oui.
Et l'été, bon, ici, impossible de traverser cette place, parce qu'il y a tellement de jeunes... Qui sont assis autour, qui font de la musique. On va aller par là. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup, qu'on peut être au milieu d'une ville qui est quand même une capitale, qui est devenue, depuis peut-être ces derniers 5-10 ans, de plus en plus internationale. L'été, vous allez voir, c'est complètement différent. Mais on peut avoir des rues pour soi-même. s'arrête pendant le dimanche. Ça, c'est sympathique.
Voilà la grande cathédrale de Copenhague.
C'est l'église où notre couple, le prince héritier, s'est marié il y a 7 ans. Donc là, c'était vraiment complètement des hélicoptères, la police, le public partout. Mais on pouvait les voir sortir dans la rue. Encore une fois, ça faisait très Copenhague qu'on pouvait carrément voir les nouveaux mariés marcher ici devant l'église. C'est une église aussi où le curé, il est vraiment très engagé dans la communauté locale. Et puisque le quartier gay, en effet, commence là, comme vous voyez, au coin, devant la vieille maison, il a, depuis 6 ans, je crois, fait rentrer des couples gays. Il leur a donné une bénédiction. Le mariage gay a été légalisé depuis 15 ans, je crois, au Danemark, mais où les couples pouvaient aller à la mairie.
On va essayer d'entrer dans cette église, je ne sais pas si il y a encore une cérémonie.
Non, je ne crois pas.
La messe est finie.
Un jour, en rentrant chez moi, dans ma rue qui est juste à côté d'ici, devant l'église, j'ai vu deux hommes assez âgés qui pleuraient dans la rue. Donc je me suis arrêtée, j'ai mis mon vélo et puis je leur ai demandé si je pouvais les aider. Et ils pleuraient parce qu'ils étaient si heureux. Ils étaient de Pologne, ils avaient depuis 25 ans vécu ensemble, mais ils avaient toujours caché qu'ils étaient homosexuels. Ils venaient d'avoir une bénédiction ici. Dans cette église. Je trouvais ça vraiment très joli, ouais. Et très émouvant aussi.
C'est beau aussi, là, de voir une église vide et noble.
Ouais. Tout calme.
Oui. Comme Copenhague.
Voilà. Je voulais vous montrer cet immeuble parce que pour moi, c'est l'essence, c'est l'esprit de ce quartier à cause des magasins. Parce que vous allez voir, c'est le quartier latin, c'est le quartier gay. Donc ici, on est devant le café où les gens locaux y vont. Donc c'est toujours plein de musiciens, écrivains, journalistes. En haut, on a le club gay le plus ancien de Copenhague, Cozy Bar. Fait beaucoup de bruit, c'est très vivant ici, c'est très 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 fameux. Ici, vous voyez, c'est partie de l'extrême gauche qui a l'adresse ici. Donc, on a souvent les drapeaux rouges dans la rue et en bas, on croirait que c'est un magasin complètement normal, mais en effet, c'est des gens de Christiania qui vendent des habits ici et on peut, si on veut, acheter des joints. Donc, alors, on a le café avec les écrivains, on a le club gay, on a l'extrême gauche qui est aujourd'hui partie de gouvernement, et on a un petit peu de Christiania ici dans le quartier latin.
Et Christiania, c'est un quartier qui est moins à la mode en fait que dans les années 70.
C'est sûr. C'est devenu plus dur parce qu'il y a des bagarres sur le marché de drogue. Donc, où Christiania, il y avait 5 ans ou 10 ans, on allait souvent l'après-midi pour prendre un café, faire une petite balade. C'est assez rare qu'on y va aujourd'hui parce que franchement, c'est devenu un quartier dur.
Et le bruit des gouttes de pluie sur le parapluie.
Oui, c'est vraiment dimanche à Copenhague.
Oui. Allons dans ce café alors, entrons dans ce café, Stéphanie.
Oui.
Je vous écris ce dimanche de Copenhague, assise au café Europa, et je me remémore différents moments de la journée. Près de moi, le livre de Karen Blixen que je ne quitte pas, et cette première page du livre de la ferme africaine. j'ai possédé une ferme en Afrique, au pied d'une combe. La ligne de l'équateur passait par les montagnes, à 25 000 au nord. Mais ma ferme se trouvait à 2000 mètres d'altitude. En milieu de journée, on avait la sensation d'être tout près du soleil. Cependant, les après-midi et les soirées étaient claires et fraîches, et les nuits froides. La latitude et l'altitude s'alliaient pour former un paysage qui n'a pas son égal sur la terre entière. Il était austère, aux lignes allongées, sans opulence aucune, sans l'exubérance de couleurs et de végétation des plaines tropicales. Ici, les teintes étaient sèches et brûlées, comme celles des poteries. Le feuillage était aussi léger que mince. Il ne s'élevait point comme le dôme des arbres d'Europe, mais s'étageait plutôt en larges couches horizontales et paraboliques. Cette structure particulière conférait aux arbres isolés une silhouette ailée et palmée, ou le port héroïque et romantique d'un trois-mâts aux voiles carguées. Les vastes orées des forêts avaient donc une allure étrange, comme si un frémissement les parcourait d'un bout à l'autre. De vieilles aubépines rabougries poussaient çà et là dans les plaines, dont l'herbe fleurait le thym et le bois sans bon. L'odeur était parfois si forte qu'elle piquait les narines. Les fleurs, que l'on trouvait dans la plaine ou sur les lianes des forêts virginales, étaient aussi minuscules que celles de nos dunes. Toutefois, au début de la longue saison des pluies, il surgissait maintes variétés de grands lys lourds et odorants, et leur présence s'étendait à perte de vue. Tout, dans cette nature, tendait vers la majesté, la liberté et la noblesse. Ici, l'élément essentiel du paysage et de la vie n'était autre que l'air lui-même.
On pourrait déplier, Catherine Lefebvre, toute l'histoire de Karen Blixen à partir de cette maison où elle a vécu et dont vous êtes la directrice maintenant, cette maison qui est un musée et à quelques kilomètres de Copenhague. Et on a vraiment intacte toute l'histoire. On peut lire comme un livre cette maison, lire son histoire et l'histoire aussi du début du XXe siècle.
Vous avez tout à fait raison, on est dans sa maison. Elle est née ici en 1885. Et elle a vécu là quasiment toute sa vie, malgré le fait qu'elle soit quand même allée en Afrique, et où elle a vécu pendant 17 ans. Nous trouvons là tout de suite dans le salon de Karen Blixen, et nous trouvons, bien sûr, dans un premier temps, je pense que les gens remarquent les rideaux de dentelle. Ils ont été posés par Karen Blixen et on pense qu'elle les a trouvés de cette taille-là, mais ils étaient un peu trop longs. Donc elle a dû se dire non, mais en fait, c'est pas mal comme ça et je les laisse. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'elle était artiste, elle était écrivain, bien sûr, mais elle avait aussi un côté très créatif, très main d'œuvre aussi. Elle faisait des présentations de fleurs dans sa maison, toujours. Il y avait des fleurs partout. Il y en a même aujourd'hui, même si on est en janvier. Donc ensuite, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a il y a un son, et c'est donc le son de la pendule que nous trouvons au coin quand on entre. Et c'est une pendule danoise de l'île de Bornholm. Et cette pendule-là est intéressante puisqu'elle a fait le voyage et les retours en Afrique.
Elle a voulu l'emporter.
Elle l'a emportée, comme plein d'autres choses. Elle est partie pour se marier en Afrique. Et c'est assez émouvant de s'imaginer que cette pendule-là, elle marchait aussi en Afrique. Elle est revenue ici avec elle.
Et le paravent ?
Le paravent, justement. On va aller voir le paravent qui est à côté, qui se trouve à gauche de la cheminée. Et en fait, il y a un petit coin sofa, un petit coin fauteuil où Karen Blixen aimait recevoir ses invités. Mais c'était aussi ici où la radio danoise venait installer un petit micro dans les années 40 et 50, où elle donnait un petit récit, elle racontait des histoires. Et donc, elle parlait sur différents sujets, la condition de la femme, la situation quotidienne, l'Afrique, bien sûr, le voyage. Et là, elle gagnait un énorme auditoire.
Oui. Elle a très vite eu du succès par ses interventions à la radio.
C'est sûr, ça a été vraiment très, très connu. Et les gens qui peut-être ne la lisaient pas pouvaient au moins l'entendre à la radio et aimaient l'entendre.
C'est une conteuse.
C'est une conteuse qui aimait raconter des histoires. et justement le paravent. Donc elle le décrit dans La Femme africaine. Et quand elle est partie pour se marier en Afrique, elle était fiancée avec son demi-cousin de Suède, Bro Blixen. Et comme tous les deux, ils étaient aventuriers, ils se sont dit tous les deux, bon, ben, on va aller s'installer en Afrique. Au Kenya, c'était à l'époque British East Africa, donc...
C'était vers 1914,
oui. Bro, il part en 13, elle le rejoint juste avant le 31 décembre 1914, donc juste avant la Première Guerre. Pour partir en Afrique du Danemark à l'époque, c'était un long voyage, et son frère qu'elle adorait, Thomas, l'a accompagnée jusqu'à Naples, où elle prenait un bateau pour Mombasa, et ensuite le train de Mombasa jusqu'à Nairobi. Mais alors, en Europe, ils se sont arrêtés à Paris parce qu'elle adorait Paris, elle aimait bien venir à Paris, elle l'avait souvent fait. Elle parlait le français aussi, elle était très francophone dans son esprit. Ils s'arrêtent à Paris pendant une semaine et ils vont au puce. Elle a trouvé ce paravent-là et elle l'a tout de suite aimé. C'est pas un objet de grande valeur, c'est pas une antiquité, mais c'est un truc assez rigolo. Un paravent...
Avec des notes africaines, il y a des palmiers...
Oui, il y a des notes de Mille et une nuits, il y a des notes, des petites personnalités qui sont dessinées sur ce paravent-là. Et elle est arrivée avec dans sa ferme et elle l'a installé à côté de sa cheminée à la ferme. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus tard dans sa vie où elle avait divorcé Bro, elle avait rencontré un nouvel homme, Dennis Finch Hatton, qui était anglais, qui lui aussi avait tourné un peu le dos à l'Europe. Et le soir, quand elle allumait le feu et quand ils étaient tous les deux ensemble devant la cheminée, la lumière de la cheminée illuminait le paravent et les petites personnalités revivaient en fait.
Comme du théâtre.
Comme du théâtre. Ouais. Et à partir de là, elle commençait à lui raconter des histoires. Et lui a dit, mais écoute, tu racontes si bien qu'il faudrait que tu écrives ces contes-là. Elle l'a enregistré, elle ne l'a pas fait en Afrique. Mais quand elle est revenue au Danemark, après 17 ans en Afrique, après avoir tout perdu, c'était vraiment le désastre total, elle est revenue à l'âge de 46 ans. Elle avait perdu son mariage, elle avait été contaminée par la syphilis par son mari, donc elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle avait perdu tout son argent. Et en plus, elle avait perdu l'homme qu'elle avait aimé, Dennis Finch Hatton, qui s'était écrasé en avion. Donc, elle était complètement dévastée. La ferme, en plus, avait jamais bien marché. C'était une ferme qui n'était pas très, très bien située pour faire le café.
Oui, donc, oui, c'était une idée un peu folle, d'ailleurs, de vouloir faire des plantations
folle.
de café.
Oui, et donc, elle était complètement...
Ça rappelle Duras, un peu, la mère de Duras.
C'est sûr,
le barrage
ça rappelle tout à fait. Oui, exactement. Et là, elle a dû se dire, OK, je ne peux plus me battre, je laisse et je rentre. Mais rentrer où ? Et sa maman lui dit, bah, tu rentres chez moi. Et la maman était toujours veuve ici, à Rongstelon. Et donc, à l'âge de 46 ans, elle revient chez elle, dans sa maison natale. Elle se réinstalle chez sa maman. Donc, c'est vraiment une situation complètement incroyable, très, très dure. Et en plus, bien sûr, déprimée, triste, complètement dépareillée de tout. Et ce qui s'est passé, c'est en fait que là, en se réinstallant ici à Rongstelon, elle se dit, OK, mes bagages, ils sont un peu douloureux quand même. Elle n'emmène pas énormément de choses, elle laisse énormément de choses derrière elle à Nairobi, mais il y a quelques objets qu'elle veut quand même emmener, dont le paravent. Et elle l'installe là et on pense que l'objet du paravent, ça devient vraiment l'objet catalysateur.
Oui, magique.
Magique. Mmh. Elle se dit, OK, il m'avait dit devant ce paravent que j'avais quand même peut-être un don pour écrire. Et c'est le seul unique chose qui lui reste. Tout est perdu. Sauf l'idée qu'elle a peut-être un talent pour écrire.
Oui, c'est un paravent aussi comme un bouclier ou une armure, parce que c'est en fait écrire qui lui a redonné le goût de vivre et
exactement,
puis la force.
Absolument, parce que la force, elle n'était pas vraiment là quand elle est revenue. Elle avait beaucoup, beaucoup souffert et elle continuait à souffrir, à la fois par sa maladie physique, puisqu'elle souffrait énormément. Et à l'époque, pour guérir, entre guillemets, la syphilis, il fallait faire des cures très, très douloureuses. Et ça ne marchait pas vraiment, de toute façon. Et en plus, la menace de la maladie de la syphilis, c'était qu'on ne savait jamais si ça allait attaquer le cerveau. Et je pense que ça a été très important dans sa vie qu'elle se disait qu'il faut que je continue à me battre, il faut que j'y arrive, il faut que je ne laisse pas tout tombé. Et elle a commencé à écrire ici même à la maison. En Afrique, elle avait écrit des lettres, de vraiment très jolies lettres, de belles lettres qui sont publiées en français aussi. Mais ses contes, son roman, ça a été écrit ici même dans cette maison-là.
Oui, elle reprend vraiment tout, son départ dans la ferme africaine. Elle revit en fait chaque instant de son expérience africaine.
Elle le fait complètement et c'est d'autant plus émouvant quand on se demande parfois, mais les gens, quand je le dis, mais ça a été écrit ici, ils me disent quoi ? C'est pas possible. Et même la première phrase du livre où elle décrit très neutrement la situation de la ferme, mais c'est une déclaration d'amour.
Oui, l'apparition de la ferme,
l'altitude. Envoyer la montagne au lointain. Mais c'est complètement émouvant puisque c'est tellement neutre, mais en même temps, on sent derrière un immense amour envers son existence en Afrique. Et elle l'a dit plusieurs fois, mes 17 ans en Afrique, c'était les années les plus heureuses de ma vie.
Oui, j'aime bien l'écho d'ailleurs d'une maison à l'autre, en fait, de la ferme africaine à cette maison. On a l'impression qu'elle converse toutes les deux maisons pour raconter sa vie.
C'est sûr. Quand elle est partie d'Afrique, elle savait en elle qu'elle ne pouvait jamais retourner. C'était vraiment un douleur immense que de quitter ce qu'elle avait aimé. Donc, en elle, elle le savait, malgré le fait que tout le monde lui disait « il faut que tu reviennes, il faut que tu... » Mais au fond du cœur, elle savait que ce n'était pas possible. Ouais. C'était vraiment trop, trop fort pour elle de revenir en arrière sur l'Afrique. Et récemment, on a travaillé justement sur ce thème, puisque son serviteur Farah, qui l'aimait beaucoup, et moi je préfère presque dire son assistant Farah, lui écrivait des lettres et lui disait « Mais écoute, il faut que tu reviennes, parce que j'ai un cadeau qui t'attend. » Et il a écrit « C'est le perroquet, j'ai trouvé un perroquet, je veux t'offrir un oiseau, il t'attend. » Et il parle le swahili, il parle anglais, il parle le français, puisqu'il vient du Congo. Et cette histoire-là de ce perroquet, cet oiseau qui l'attend, bien sûr, c'était très dur pour elle de résister à venir voir cet oiseau-là, qu'elle adorait les oiseaux. Donc, il avait vraiment su lui trouver le meilleur cadeau possible. C'était très subtil comme cadeau. Elle a résisté, mais le fait qu'il lui a acheté un perroquet qui parlait différentes langues et qui parlait le français et qui allait apprendre une nouvelle langue. Ça parle vraiment, c'est un peu le cœur de son existence, le cœur de la question d'identité, du voyage.
Toujours chercher l'autre aussi.
Chercher l'autre, d'immigrer d'un pays à un autre. En fait, c'est très intéressant et c'est un peu l'épicentre du thème de son existence et aussi de son écriture.
Oui, en fait, on aime bien aussi savoir qu'elle est danoise. Elle représente aussi un esprit aussi du Danemark dans le meilleur.
C'est sûr, dans le meilleur, elle représente vraiment un esprit. Ouais. Et elle est très consciente par rapport à ses racines ici. Elle se trouve très enracinée ici, elle est même enterrée ici. Elle l'a voulu
dans le jardin,
dans le parc, enfin. Et le jardin, elle l'a transformé en réserve d'oiseaux en 58. Elle est décédée en 62. Et donc, tout a été classé. Et elle a, en fait, laissé l'Académie danoise littéraire avoir sa maison ici. Donc, et le jardin, c'est une réserve d'oiseaux. Aussi, les oiseaux migrateurs d'Afrique. Donc, on conserve le lien avec l'autre continent. Et elle dit, dans un des plus beaux textes, elle dit « Oh, j'aimerais qu'ils fassent leur nid ici, à Rongselon. » Et qu'ils portent le témoignage de l'Afrique ici au Danemark. Donc ça, c'est très fort. Et je dirais que c'est le meilleur de l'esprit danois.
Oui.
Vraiment, dont on peut être très fier.
Carnet nomade sur France Culture, je vous écris de Copenhague et je glisse dans cette lettre, cette archive de Pierre Dumayet avec Karen Blixen qui parle en français.
On peut dire, on a dit, je pense, de tous vos récits, de tous vos contes, qu'ils étaient fantastiques, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais vous, vous pensez que la vie est beaucoup plus fantastique ?
Oui, oui, je trouve la vie plus fantastique. Je trouve que Dieu est beaucoup plus fantastique que moi.
Vous pensez par exemple que rien ne peut être plus beau qu'un lion, n'est-ce pas ?
Oui.
Et vous ne pensez pas que vous pourriez inventer quelque chose
Je n'aurais pas pu inventer un lion. J'ai tué de lions en Afrique quand j'ai vécu là. Et chaque fois que j'ai vu un lion, ça m'a frappé comme quelque chose d'incroyable, incroyablement beau, et fort, et noble.
Vous n'avez pas eu exactement la vie d'une femme de lettres, d'un écrivain, n'est-ce
pas ? Non, parce que j'ai vécu près de 20 ans en Afrique, comme fermière de ferme de café.
Vous dirigez une ferme.
C'est seulement quand je suis rentrée de l'Afrique que j'ai commencé à écrire.
Vous avez écrit à ce moment-là La ferme africaine.
C'est un livre de mémoire, c'est tout à fait la réalité. C'est un monde, c'était un monde. D'abord, c'est un pays très très beau et un climat très beau. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les indigènes. Je trouvais qu'en montant, la relation des indigènes et des européens, c'était le grand charme de la vie là. Je suis très triste que ça a tant changé.
On imagine aussi dans cette, avec ce poêle, se lever la nuit,
on l'imagine très feu. Facilement, oui, oui. Malgré le fait que cette maison est située sur la côte d'or du Danemark, un des plus beaux lieux du Danemark, malgré ce fait-là, elle n'avait jamais énormément d'argent dans sa vie, parce que la maison est aussi chère à entretenir.
Oui, elle est très grande.
Elle est très grande et elle est très froide aussi, puisqu'on est très près de la mer, on a une superbe vue. Dans les années 40, elle n'avait pas les moyens d'installer le chauffage central. Donc, à partir de différents châteaux, elle récupérait des poêles, dont celui-là, comme on voit. Et la nuit, elle se levait elle-même et elle mettait du bois dans son poêle.
Et cette véranda aussi, qui rappelle en même temps un peu les vérandas africaines presque, mais c'est en
vrai.
Même temps très...
Oui, c'est vrai.
C'est dans l'architecture danoise aussi.
C'est sûr, il y a de très belles photos de Karen Blixen quand elle était toute petite avec ses parents et ses frères et sœurs sur la véranda. Mais vous avez tout à fait raison, ça rappelle un peu l'Afrique.
J'aime bien parce qu'il y a le battement de la pendule qui est comme le cœur de Karen Blixen qui nous accompagne.
Sûr. Oui. Ce cœur qui a battu en Afrique aussi, oui. Pareillement. Et Karen Blixen est née ici donc en 85. Et à l'âge de 10 ans, la première catastrophe de sa vie apparaît puisqu'elle perd son père. Et son père, c'était un homme qu'elle adorait. Elle était très proche de son père puisqu'elle avait un peu le même caractère. Il y avait 5 enfants. Elle était la troisième et ses parents étaient très différents. Sa maman était plus venue d'une famille intellectuelle, pieuse, religieuse, alors que le père, c'était un voyageur, un aventurier, un poète aussi, chasseur. Et donc, elle avait un petit peu les mêmes caractéristiques que son père. Et son père aussi lui prenait par la main et il l'emmenait dans la nature. Il lui montrait la nature. Donc, le lien entre père et fille était très fort. En plus, son père comprenait très tôt qu'elle avait des dons créatifs comme lui. Et enfin, on est juste devant le portrait des deux parents. Et donc, elle avait conservé les portraits de ses parents dans la salle à manger, où nous nous trouvons tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son papa, qui avait tout pour lui... Il avait de l'argent, il avait une superbe famille, il était aussi politicien, il avait un studio à Copenhague. Il finit par se suicider quand elle a 10 ans et on s'est toujours demandé pourquoi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il se suicide et on pense qu'il souffrait aussi de la syphilis et que lui avait une dépression instantanée et qu'il n'a pas su...
Il n'a pas supporté,
non.
Oui.
En plus, on pense aujourd'hui qu'en fait, parce que lui, avant de se marier... Il s'était aussi battu pour l'armée française et l'armée anglaise. Et donc, il avait fait la guerre, il avait vraiment fait la guerre, avant d'aller vivre en Amérique, chez les Indiens. Donc, il avait fait beaucoup de choses. Et on pense aussi qu'aujourd'hui, que ça pouvait être un stress post-traumatique qui l'a atteint. Parce que c'est incompréhensible pourquoi il se suicide. Mais en tout cas, toujours est-il, elle perd son papa à l'âge de 10 ans et ça marquera sa vie. À jamais. Elle aura toujours la sensation de perte qui va la poursuivre pendant toute sa vie. En fait, pour surmonter la perte de son père, la famille va partir voyager, etc. Et juste là, une partie de la maison va brûler. Mais donc, ce sont des années assez difficiles. Et plus tard, elle va toujours se référer à son père et aussi vivre une vie qu'il aurait pu vivre lui. Le fait de partir en Afrique, son papa vivait dans le Wisconsin, chez les Indiens, pendant 2 ans, avant de revenir au Danemark pour épouser la maman. Donc,
c'est aussi pour ça qu'elle est partie, peut-être, en Afrique, pour retrouver une expérience.
Elle voulait absolument retrouver une expérience forte de la famille, aussi personnelle, mais aussi familiale. Pour elle, ce n'était pas insurmontable que de partir. Bien sûr, pour une femme, à l'époque, on s'attendait à autre chose. Ses frères et sœurs n'ont pas fait ça. Mais ils l'ont soutenue. Elle est partie.
Elle était précurseur.
Précurseur. Ouais. Et je dirais qu'elle était en fait globale avant qu'on connaisse le mot global, puisqu'elle a voulu se lier, se rapporter à l'autre monde, et elle a voulu se l'approprier aussi.
Oui, c'est en ça qu'elle est très moderne aujourd'hui.
Très, très moderne. Et c'est ça que je pense qui fait qu'on continue à se questionner sur sa vie, sur son œuvre, et que, en fait, elle continue à être un auteur classique, mais qui est toujours en vogue sur le plan mondial, puisqu'elle a fait des choses qui nous inspirent aujourd'hui. Et même, je dirais qu'elle en a fait plus que nous, puisqu'à l'époque de partir pendant 17 ans vivre en Afrique, elle n'était pas partie pour 2 ans, elle était partie pour toujours. Donc, je dirais que pour elle, c'était même beaucoup plus important que ce ne l'est aujourd'hui pour nous, quand nous voyageons. Elle a pris beaucoup de risques, mais elle l'a voulu. Et ça la faisait vivre.
Dans la réserve, il m'est plusieurs fois arrivé de voir des iguanes, de grands lézards ou des sauriens, alors qu'ils se chauffaient au soleil sur une pierre plate, dans le lit d'un fleuve ou d'une rivière. Leur forme n'est guère belle, mais on ne saurait imaginer rien de plus joli que leur couleur. Elles brillent et étincellent comme un tas de pierres précieuses ou comme un morceau de verre d'un vitrail ancien. Ils s'enfuient quand on s'approche d'eux, et l'on croirait voir sur les pierres derrière eux un faisceau lumineux de bleu ciel, de vert et de rouge vif, comme si toutes les couleurs du spectre flottaient un instant dans l'air, telle la queue d'une comète. Une fois, j'ai tué un iguane. Je songeais à toutes les belles choses que je pourrais faire avec sa peau, mais il se passa une chose étonnante que je n'ai jamais oubliée. En m'approchant de la bête morte sur sa pierre, oui, tandis que je franchissais la 20aine de mètres qui me séparaient de lui, je le vis faner et pâlir. Toutes ses couleurs s'éteignirent comme dans un dernier souffle, et quand je le touchais, il était aussi gris et mat qu'un bloc de ciment. C'était le sang qui coulait et battait dans le corps de la bête, qui avait émis cette richesse de couleurs. Maintenant que la flamme était éteinte et l'âme envolée, l'iguane était aussi mort que du sable.
On continue, Catherine Lefèvre, de voyager dans cette maison, puisque c'est un vrai voyage avec des stations, des pays, des thèmes. Et dans la vie de Karen Blixen, il y a cette salle qui est très importante, puisqu'elle montre que Karen Blixen était aussi peintre.
Exactement. En fait, on a installé une petite galerie dans la maison. Autrefois, c'était une lingerie ici, donc un lieu où les enfants jouaient quand ils étaient jeunes, où ils se cachaient ici. On en a fait une petite galerie, puisqu'en fait, on a un certain nombre d'œuvres de la main de Karen Blixen. Quand elle était jeune, elle a pensé qu'elle allait être artiste peintre. Et dès son plus jeune âge, elle a été admise aux Beaux-Arts de Copenhague, mais pas les vrais Beaux-Arts, puisque les vrais Beaux-Arts étaient réservés aux hommes. Et là, elle a commencé à étudier réellement la peinture. Mais en fait, assez jeune, je pense aussi qu'elle réalise qu'elle ne serait pas véritablement artiste peintre. Donc quand elle est partie en Afrique, et elle a fait quelques œuvres là-bas, dont nous voyons 3 portraits d'Africains, les autres œuvres, des pastels de fleurs, bien sûr, ont été réalisées ici même, pendant une période de reconvalescence. Oui. Puisqu'en fait, quand elle habitait en Afrique, elle a dû faire le voyage 2 fois pour Copenhague pour se faire hospitaliser, pour subir des cures vraiment très très douloureuses et pour ensuite refaire le voyage de retour en Afrique. Mais quand elle sortait de l'hôpital, elle ne pouvait pas sauter dans le train, donc elle est venue ici chez sa maman où elle s'est reposée pour refaire le voyage de retour. Et là, on pense qu'elle a dû faire les pastels de fleurs. Après, il y a une œuvre aussi là-bas sur la droite qui est une petite toile. Une petite nature morte. Il y a un vase, un de ces nombreux vases où elle mettait ses fleurs. Et il y a un hibou. Il n'est pas vivant, mais il est quand même là. Et puis il y a quelques fruits. Donc c'est une belle petite nature morte qui nous montre bien son sens de la composition aussi. Et ce sens-là, ce talent-là, on va aussi bien sûr le retrouver dans son écriture. Et quand elle était en Afrique, c'était pas... Bon, bien sûr, elle avait presque pas le temps de peindre parce qu'elle était très occupée à gérer sa plantation de café, puisque ce qui s'est passé après le divorce avec Brouwer, c'est assez curieux, c'est que lui, il est parti, mais elle, elle est restée. Donc c'est elle, en tant que femme seule, qui est restée à la plantation pour gérer tout ça. Donc,
quel courage,
évidemment, elle n'avait pas tellement de temps de peindre. Et en plus, elle avait un peu de mal à trouver les matériaux qu'il fallait. Donc souvent, dans les lettres, on voit « emmène-moi ce bleu, emmène-moi une toile », parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut ici pour vraiment peindre.
Et puis toute la maison aussi est ponctuée de bouquets que vous recréez presque à... Alors, l'exactitude de ce qu'elle aimait, de ses bouquets.
Oui, c'est sûr. Il y a des bouquets partout dans la maison, comme dans son temps à elle. On a choisi de continuer cette tradition-là. Et pendant toute l'année, quasiment toute l'année, on trouve tout dans le jardin. Et nous sommes très heureux d'être en possession de photos des bouquets originaux de Blixen, donc on peut reproduire.
Ouais.
Parce qu'en fait, à travers ces bouquets, c'est pas uniquement bouquet, c'est pas bouquet, mais c'est plus une création.
Et
parfois, c'est un objet. Et parfois, ces bouquets-là deviennent vraiment des objets un peu fantastiques, un peu folles, ça devient un peu une belle création en soi.
Et on remarque aussi, Catherine, dans la maison, qu'il n'y a pas tellement de décoration design, alors qu'elle aurait pu. C'était l'époque où le design explosait.
Non, il n'y a pas d'objet design ici, parce qu'en fait, dans son temps, elle n'avait pas énormément d'argent. Elle a hérité plein de meubles. Elle a quand même conservé pas mal de meubles de ses parents. Et quand elle a repris la maison après le décès de sa maman, la maison était une maison de fin de siècle. Donc il y avait des rideaux lourds, il y avait plein de petits objets, des bibelots partout, des couleurs sombres. Et elle a changé parce qu'elle s'est dit « Non, moi je veux les couleurs claires, je veux peu de meubles, mais je veux une ambiance légère, claire, avec des miroirs. » Parce que le miroir, c'est un thème aussi important
dans son œuvre.
Donc elle a installé elle-même les miroirs dans la salle à manger. Elle a dû faire l'expérience du miroir à Paris quand elle était jeune, dans les cafés. Donc ça, elle l'a installé. Mais en même temps, elle a aussi un peu nettoyé l'espace, mais quand même avec les vieux meubles.
Oui.
Donc c'est devenu un petit peu son style à elle, avec les fenêtres grandes ouvertes, avec beaucoup de lumière qui passe partout.
Les poils partout.
Les poils partout, les rideaux en dentelle, les bouquets de fleurs bohèmes. Bon, tout ça, ça forme un peu
les armoires,
l'esprit de la maison.
C'était à la télévision belge que Karen Blixen est apparue 3 mois avant sa mort, le 7 septembre 1962.
Pour la femme à mon sang. La chose la plus importante est ce qu'elle est, et pas ce qu'elle fait. Mais la présence même de la femme dans la vie devait signifier que la vie acquiert une beauté plus grande, un équilibre plus parfait, de poésie, si vous voulez. J'estime que les femmes doivent profiter de tous les moyens possibles d'épanouir leur nature. Mais une société où les hommes et les femmes seraient totalement uniformisés me paraîtra très triste et stérile.
Bon, alors ici, nous nous trouvons dans le bureau de Karen Blixen, et le bureau là où elle a quasiment tout écrit, toute son œuvre. Et c'est une pièce qui est remarquable, je pense, et émouvante. Et c'est peut-être la pièce que je préfère de la maison. Puisque il y a la vue sur la mer et il y a une belle lumière et bien sûr c'est le lieu par excellence de l'écriture. Il y a aussi des objets qui me plaisent énormément, c'est que sur le mur il y a une collection d'armes africaines de son époque en Afrique et il y a les fusils de chasse de son papa et d'elle-même. Il y a les photos d'elle-même en Afrique avec son chien et sur la droite il y a la photo de son papa en chasseur aussi. Les photos sont placées sur le mur derrière son bureau. Le fauteuil où elle était assise, c'était le fauteuil de son papa. Et le bureau où elle a écrit, Il y a une petite plaquette qu'on peut tirer pour même placer la petite machine à écrire, la petite Corona qu'on a aussi. Et donc, c'est là où elle travaillait. Il y a de très, très belles photos d'elle dans son bureau quand elle travaille. Il y a des livres partout, il y a des tasses partout, il y a des cendriers partout. Et on voyait bien que c'était le bazar. Et ça, c'est très sympathique aussi de voir qu'elle était dans son travail. Sur la fenêtre, il y a deux photos en noir et blanc de Denise Finchatten, de l'homme qu'elle a aimé en Afrique, qu'elle a perdu en Afrique dans un crash d'avion. Et il y a aussi une petite poupée africaine qui reste là sur la fenêtre. Et il y a une toile aussi, une toile qu'elle a fait elle. Et c'est un cadeau pour Denise Finchatten. Elle lui a offert et après sa mort, elle l'a récupéré. Et elle l'a emmené au Danemark, elle l'a mis dans son bureau. Puisque c'est un tableau qui représente très symboliquement un gros oiseau. C'est un oiseau rhinocéros africain. Et il y a un livre qui se trouve ouvert en dessous de l'oiseau. Et c'est l'histoire du Danemark par Holberg. Donc, Danemark-Afrique dans le même tableau, véritable message d'amour qu'elle avait offert à Denise Finchatten. En plus, il y a plein de livres, pas tous ces livres, mais il y en a plein. Il y a des bibliothèques et il y a aussi...
Rabelais.
Il y a Rabelais, et on voit que les livres ont bien été lus. Sur la bibliothèque là-bas, à côté de la fenêtre, il y a une buste de Ewald, donc de Johannes Lee Ewald, le poète national qui a écrit ici même. Et donc, elle aimait penser au fait qu'il avait aussi, lui, écrit dans cette pièce-là. Et puis après, il y a bien sûr une belle table ronde où on peut prendre encore une tasse de thé. Il y a aussi quelques oiseaux d'Afrique qui sont là, donc qui rappellent bien sûr la vie des oiseaux en Afrique. Et il y a des petites sculptures africaines, il y a des références à plein de choses de sa vie, les choses qui sont très importantes.
Des armes.
Ce sont des armes Maasai, de son époque, bien sûr. Des armes de chasse, ça montre bien aussi l'époque où elle a vécu là-bas, chez les Maasai.
C'est quand même encore une énigme, elle est très secrète en fait, même si elle nous laisse sa maison, ses objets, ses œuvres, ses tableaux. Il y a un questionnement autour d'elle-même, de sa féminité, son expérience en fait.
Exactement, vous avez raison, oui. Elle reste quand même une énigme, mais c'est intéressant à voir parce que quand on rentre dans son bureau ici, on s'aperçoit que c'est pas un bureau spécialement féminin, c'est un bureau qui se réfère au grand thème de sa vie, à la chasse, au voyage. Il y a des couleurs terre, il y a des couleurs marron. Il n'y a pas tellement de couleurs roses, des choses comme ça. Il y a des fleurs, il y a une rose toujours sur son bureau, mais ça aurait pu quand même, on dirait presque, être le bureau d'un homme. Donc, dans sa vie, elle a dû aussi se battre comme un homme. Elle a dû prendre l'identité et elle a pris aussi le pseudonyme masculin parce qu'elle a écrit sous le nom de Isaac Dinesen, par exemple, Pierre Andrézel aussi. Donc, elle a dû prendre l'identité d'un homme pour se camoufler un peu. Et justement, elle reste secrète et le thème du masque, c'est quelque chose de très important chez elle. Et il y a une belle citation d'elle, des Sept Contes Gothiques, où elle dit « Je vais te reconnaître sur ton masque ». Donc ça, c'est très important, c'est l'épicentre en fait de son questionnement à l'identité. Et c'était aussi un peu très peu danois, je dirais, puisque en fait au Danemark, on est élevé à se montrer à nu, on est élevé à se dire moi je suis comme ça, c'est ma nature, je suis naturelle comme ça. Mais alors elle, au contraire, elle dit non, moi je veux montrer ce que je choisis comme masque. C'est ça qui est intéressant pour toi de voir. Et ça, c'est quand même très fort. Et c'est aussi un thème qui se rejoint à son existence, mais aussi vraiment au centre de son écriture, de sa littérature. Donc, ici même, elle se camoufle sous les armes africaines, sous les photos, sous une seule rose sur son bureau, sous les meubles. Elle nous envoie un message, mais... On la questionne toujours, on est toujours en train de chercher, mais qui était cette femme? Pourquoi, comment était sa vie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment, pourquoi elle a écrit comme elle a écrit? Donc ça reste toujours, et je pense que c'est gratifiant, dans le sens où nous avons toujours besoin de questionner, toujours besoin de trouver de nouvelles réponses, et on n'a jamais la bonne réponse. Donc il y a toujours de nouvelles possibilités à parler d'elle et à interpréter aussi son œuvre.
Pour finir, on va peut-être aller dans le jardin, Catherine.
Oui, très volontiers.
Au tout début de la saison des pluies, la dernière semaine de mars ou la première d'avril, j'ai entendu le rossignol dans la forêt africaine. Pas le chant dans son entier, quelques notes, les premières mesures d'un concert, une répétition générale interrompue, puis reprise. On aurait dit que quelqu'un était perché dans un arbre de la forêt ruisselante et accordait un violoncelle minuscule. Mais c'était bien la même mélodie, avec cette même richesse et cette même douceur, qui devait bientôt résonner dans les forêts d'Europe, de la Sicile jusqu'à Helsinger.
Pour finir ce grand voyage dans la vie et l'histoire de Karen Blixen à travers sa maison, Catherine Lefèvre, on est dans le jardin, on a tous ces oiseaux qui nous accompagnent, ces oiseaux qu'elle a tant aimés. Hein, elle a aimé les fleurs, les oiseaux, l'ailleurs, et ils sont toujours là.
C'est vrai, ils sont toujours là, ils sont présents, on les entend. Et en fait, nous avons 30 hectares de terre, de parc. Et c'est un parc naturel, comme vous pouvez le voir. Il y a de vieux arbres qui sont là, depuis son époque, bien sûr, et que nous aimons beaucoup. Et c'est un parc un peu anglais, style anglais, où la nature a un peu repris sur la civilisation, si on peut dire. Et il y a même des coins de ce parc qui rappellent un peu l'Afrique. Et en ce moment, nous avons une petite exposition par un groupe d'artistes et d'architectes qui ont réinterprété le mangeoir. Et ils ont fait ça à leur façon, donc dans les couleurs fluorescentes ou avec de la paille ou avec un petit arbre de Noël. Ou il y a même un mangeoir qui rappelle New York puisque c'est un gratte-ciel pour oiseaux. Et ça, c'est assez rigolo. Il y a une note humoristique dans les œuvres. En fait, ça rejoint bien sûr un thème beaucoup plus vaste. C'est le thème des oiseaux migrateurs qui font le voyage, qui voyagent dans le monde et qui ont besoin de s'installer à droite et à gauche et qui ont bien sûr aussi besoin de manger. Donc en fait, on rejoint des thèmes plus sérieux aussi. Et je pense que Karen Blixen de son époque était une femme qui pensait en fait grand. Et elle voyait l'importance aussi d'avoir un lieu, un espace pour abriter, pour accueillir et pour faire manger les oiseaux. Et bien sûr, on peut interpréter facilement, aller un peu plus loin pour dire mais c'est très important de rester lieu ouvert, lieu accueillant, lieu qui reçoit.
C'est une leçon aussi pour le Danemark.
C'est une très belle leçon. Et je pense qu'on a passé des temps politiques un peu plus difficiles récemment. Je pense que on est arrivé à un point où on peut continuer, franchement.
Il y a un nouveau gouvernement depuis septembre.
Oui, et je pense que cette leçon par Karen Blixen, on peut la prendre à cœur tous. C'est important de garder l'esprit ouvert et de garder le lieu ouvert. Et ce parc-là, c'est un parc privé, mais qui reste quand même ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, où on peut venir se balader tranquillement, où on peut s'asseoir sur les bancs que Blixen a fait mettre et où on peut écouter notamment les oiseaux.
Et c'est là qu'elle est enterrée aussi.
C'est là absolument, elle est enterrée là et elle a désiré être enterrée ici et ça a été possible. Et donc en 62, elle est décédée, donc ça va faire 50 ans au mois de septembre. Et voilà, nous retrouvons le cycle qui se boucle et nous allons bien sûr mettre en évidence les 50 ans de son décès.
Je vous demande maintenant d'imaginer que ce n'est plus moi qui suis devant vous, mais un groupe de très jeunes gens et de très jeunes filles qui viendraient vous demander quelques conseils de sagesse. Ils vous demanderaient « Comment faut-il vivre, Karen Blixen ?» Que répondriez-vous ?
Je répondrai, il faut avant tout avoir du courage. Sans un grand courage, pas moyen de vivre. Et s'ils me questionnaient encore, je leur dirais, il faut avoir le don d'aimer et il faut avoir le sens d'humour.
Et voici la dernière page de La Ferme africaine. Quand le jour de mon départ arriva finalement, je découvris qu'il peut se produire des choses que nous sommes incapables de concevoir, soit à l'avance, soit au moment où elles ont lieu, soit même plus tard, lorsque nous songeons à elles. Et puis plus loin, nous prîmes le thé sur la table de pierre, comme nous l'avions fait tant de fois dans les tasses de Farah. À l'ouest, les montagnes, dont les vallées étaient couvertes d'un peu de brume grise, se dressaient devant nous, tranquilles, et vivaient un instant de plus de leur vie millénaire. J'avais froid, comme si j'étais là-haut. Je dis adieu à chacun de mes serviteurs, et quand je sortis, ils laissèrent la porte grande ouverte, alors que je leur avais appris à les fermer toutes. C'était un geste bien caractéristique des indigènes, comme s'ils disaient que je reviendrais, ou comme s'ils tenaient à souligner que cette porte pouvait rester ouverte, puisqu'il n'y avait plus de raison de la fermer. Farah conduisit lentement, à l'allure d'un chameau, je pensais. Et nous quittâmes l'allée, puis nous perdîmes de vue la maison. Là, je regardais vers le sud-ouest, vers les Nongils. Les courbes majestueuses des montagnes se dressaient sur la plaine environnante, d'un bleu plus foncé que le ciel. Mais nous étions déjà si loin que l'on distinguait à peine les quatre sommets dans la longue chaîne. La vue était différente de celle que j'avais à la ferme, comme si c'était d'autres montagnes. Leurs contours furent lentement lissés et effacé par la distance.
Why we can't be or see who cuts asunder like a bird falling a tree. You're the thunder going on.
C'est la fin de cette lettre où je vous écrivais de Copenhague. Un grand merci à Catherine Lefebvre, qui est directrice du musée Karen Blixen à Rungsteldund, près de Copenhague. Merci également à Stéphanie Sourou. De Karen Blixen, vous pourrez lire le Quarto Afrique. La ferme africaine est traduite par Alain Gneding, qui a d'ailleurs reçu pour cette traduction le prix des ambassadeurs de la francophonie. Mais il y a aussi Ex-Africa, Des lettres d'Afrique et Ombre sur la prairie. De Karen Blixen également en folio, Les chevaux fantômes et autres contes. Vous pourrez aussi avoir tous les renseignements sur le site de la maison de Karen Blixen. Merci à Lina pour les archives de Karen Blixen et à Air France pour son soutien. Carnet Nomade, Nicolas Mathias à la prise de son à Copenhague et Alain Joubert à la technique, Thierry Beauchon à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fellous. Vous pouvez bien sûr podcaster ce Carnet Nomade sur le site de France Culture pendant 1000 jours. Je vous souhaite un très bon week-end à tous.